Bulle, une émission créée et réalisée par Tim Brown. Une immersion sonore et poétique à écouter sur Radio Kipik. Ils sont partout, dans les forêts, les champs, les villes, les montagnes, les bords de mer. Ils occupent de leur silhouette gracile notre espace visuel et leur chant mélodieux habille l'espace sonore. Le silence amplifie leur présence. Souvent, on les oublie, mais dès lors qu'on leur prête attention, ils nous ravissent de leur compagnie. Dans ma bulle est celle des oiseaux, une bulle légère et aérienne où il fait bon se déconnecter.
Si j'étais un oiseau, que cui, 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 cui.
Oh, yeah.
Cui, 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 cui.
Oh, yeah.
Cui, 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 cui.
Oh, yeah.
Cui, 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 cui.
L'oiseau est le lien entre la terre et le ciel. Il s'oppose au serpent comme le symbole du monde céleste à celui du monde terrestre. Les oiseaux symbolisent les états spirituels, les anges, les états supérieurs de l'être. L'œuvre célèbre de Farid Oddin, Le langage des oiseaux, un classique de la littérature persane, utilise ce thème pour décrire les péripéties de l'itinéraire mystique en quête du divin. Dans le taoïsme, les immortels prennent figure d'oiseau pour signifier la légèreté. Les brahmanes pensent que l'oiseau est la figure de l'âme s'échappant du corps. Dans le monde celtique, l'oiseau est en général le messager ou l'auxiliaire des dieux et de l'autre monde. Les Hopis attribuent aussi aux oiseaux le pouvoir magique de communiquer avec les dieux. Ils sont souvent représentés la tête entourée de nuages, symbole de la pluie qui est un bienfait des dieux fertilisant la terre. Au Kurdistan, chez les Yézidis, Dieu, à l'époque où tout l'univers était recouvert par la mer, est figuré sous la forme d'un oiseau perché sur un arbre, dont les racines s'enfoncent dans les airs. L'oiseau est une image très fréquente dans l'art africain, notamment sur les masques. L'oiseau symbolise la puissance et la vie. Parfois, comme chez les Brambara, c'est à l'oiseau, à la grue huppée par exemple, que se rattache le don de la parole. Sur les monuments préhistoriques de l'Europe et de l'Asie, l'arbre cosmique est représenté avec deux oiseaux dans ses branches. Ces oiseaux, en dehors de leur valeur cosmogonique, semblent avoir symbolisé aussi l'âme ancêtre. Les chamans, du fait qu'ils peuvent se transformer en oiseaux, sont capables de voler jusqu'à l'arbre du monde pour en rapporter des âmes oiseaux. La plus ancienne attestation de la croyance aux âmes oiseaux est sans doute contenue dans le mythe du phénix, oiseau de feu, couleur de pourpre, c'est-à-dire composé de forces vitales et qui représentait l'âme chez les Égyptiens. La tradition ésotérique a esquissé tout un jeu de correspondance entre les oiseaux, les couleurs, les pulsions psychiques. Les quatre couleurs principales seraient représentées par le corbeau, oiseau noir, symbole d'intelligence, par le paon, vert et bleu, symbole des aspirations amoureuses, par le cygne, blanc, symbole de la libido qui engendre la vie corporelle, et par le logos, la vie spirituelle. Le phénix, rouge, symbole de la sublimité divine et de l'immortalité.
Thank you.
oiseau arriva un jeudi à la fin du mois de juin, à l'heure des vêpres, quand tous les moines étaient à la chapelle pour l'office. Fra Giovanni da Fiesole, dans ses conciliabules intérieurs, continuait à s'appeler Guidolino, nom qui était le sien avant son entrée au couvent. Il se trouvait dans le jardin, occupé à ramasser des oignons. Les oignons étaient de cette variété rouge à gros bulbes qui provoque l'abondance de larmes dès qu'on les tient dans la main. Il les mettait dans sa robe de bure pliée en forme de sarrau quand il entendit une voix qui appelait « Guidolino !» Il leva la tête et vit l'oiseau. Il le vit à travers les larmes qui embuaient ses yeux à cause des oignons. Pendant quelques instants, il fixa sa silhouette agrandie et déformée comme par une loupe extravagante, puis il cligna des paupières pour sécher ses larmes et regarda de nouveau. C'était une créature rose et menue, délicate, avec de petits bras osseux d'un jaune, pareil à celui des coqs plumés, deux pattes très maigres elles aussi, aux jointures proéminentes et aux phalanges calleuses, comme chez les poules d'Inde. L'oiseau avait un visage de vieux marmouset, mais tout lisse, avec deux grands yeux noirs et du duvet blanc à la place des cheveux. Et il le regardait, agitant ses bras d'un air las, comme pour mimer un vol qu'il ne pouvait reprendre, si bien qu'on aurait dit un mouvement répétitif et obligé. Il s'était empêtré dans les branches d'un poirier, anguleuse et pleine de nœuds. Sa posture était des plus inconfortables, avec les pattes coincées entre deux branches qui à coup sûr lui blessaient les flancs, le bréchet de guingois et le cou tordu, car autrement il eût été contraint de regarder en l'air. Incroyable voile en forme de triangle, deux ailes gigantesques partaient de ses omoplates et recouvraient toute la ramure, bercée par la brise avec les feuilles du poirier. Faites de plumes de couleur ocre, jaune et turquoise, mais aussi d'un vert émeraude, pareil à celui du martin pêcheur, elles s'ouvraient parfois en éventail jusqu'à ras de terre, puis se refermaient brusquement et disparaissaient l'une sous l'autre. Fra Giovanni se frotta les yeux du revers de la main et lui dit « Était-ce toi qui m'appelais ?» De sa tête, l'oiseau fit signe que non, et pointant vers lui comme un index l'ongle d'une patte, il le désigna. « Moi ?» demanda Fra Giovanni avec stupeur. De la tête, l'oiseau fit signe que oui. « C'était moi qui m'appelais ?» répéta Fra Giovanni. Alors l'oiseau ferma les yeux, puis les rouvrit, toujours en signe d'approbation. Ou peut-être par lassitude, qui sait, car il était recru de fatigue. On le voyait à son visage, au cerne violet et profond autour de ses yeux. Et Fra Giovanni observa que la sueur perlait sur son front, tout un lacis de gouttelettes qui pourtant ne ruisselait pas, mais s'évaporait dans la brise du soir pour se former à nouveau.
Thank you.
Il s'est d'abord agi d'un merle. La fenêtre de ma chambre était restée ouverte pour la première fois depuis des mois comme un signe de victoire sur l'hiver. Son chant m'a réveillée à l'aube. Il chantait de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son talent de merle. Un autre lui a répondu un peu plus loin, sans doute d'une cheminée des environs. Je n'ai pu me rendormir. Ce merle chantait, dirait le philosophe Étienne Souriau, avec l'enthousiasme de son corps, comme peuvent le faire les animaux totalement pris par le jeu et par les simulations de faire semblant. Mais ce n'est pas cet enthousiasme qui m'a tenu éveillé, ni ce qu'un biologiste grognon aurait pu appeler une brillante réussite de l'évolution. C'est l'attention soutenue de ce merle à faire varier chaque série de notes. J'ai été capturé dès le second ou le troisième appel par ce qui devint un roman audiophonique dont j'appelais chaque épisode mélodique avec un « et encore » muet. Chaque séquence différait de la précédente. Chacune s'inventait sous la forme d'un contrepoint inédit. Ma fenêtre est restée à partir de ce jour chaque nuit ouverte. À chacune des insomnies qui ont suivi ce premier matin, j'ai renoué avec la même joie, la même surprise, la même attente qui m'empêchait de retrouver ou même de souhaiter retrouver le sommeil. L'oiseau chantait, mais jamais chant en même temps ne m'a semblé si proche de la parole. Ce sont des phrases, on peut les reconnaître. Elles m'accrochent d'ailleurs l'oreille exactement là où vont toucher les mots du langage. Jamais chant en même temps n'en aura été plus éloigné, dans cet effort tenu par une exigence de non-répétition. C'est une parole, mais en tension de beauté, et dont chaque mot importe. Le silence retenait son souffle. Je l'ai senti trembler pour s'accorder au chant. J'ai eu le sentiment le plus intense, le plus évident, que le sort de la terre entière, ou peut-être l'existence de la beauté elle-même, à ce moment, reposait sur les épaules de ce merle.
Your crash landing's over, but the evening searching for the sun till I can finally run, find a way to fly. Find a way to fly.
Après avoir dévoré tous les livres d'identification des oiseaux publié par Delachaux et Niestlé, feuilleter les numéros de la hulotte dédiée à la gentellée, il me fallait nommer tous les oiseaux par leur nom scientifique et éviter la tentation des simplifications du type « c'est un moineau ». Oui, mais lequel ? Un friquet ? Un domestique ? Un cisalpin ? Un moineau soulcy ou un moineau espagnol ? Aujourd'hui, je tente d'apprendre à mes enfants à ne jamais dire un oiseau, mais un rouge-gorge, une mésange charbonnière, un troglodyte. Prononcer le nom de l'espèce, c'est conjurer les approximations et honorer la formidable complexité du vivant. Dans un premier temps, la réalité du terrain vous paraîtra abrupte, sans doute morne et décevante, comparée aux promesses suscitées par la lecture d'un guide spécialisé. Dans les livres d'identification des espèces, les critères morphologiques permettant de les distinguer y sont parfaitement exposés et illustrés. C'est le musée Grévin des oiseaux. Tout y est soigné, minutieusement retranscrit dans les moindres détails. Lorsque vous partirez sur le terrain, l'oiseau ne sera jamais aussi royalement figé et visible. Farouche et méfiant, il cherchera toujours à se dissimuler, à échapper à votre regard. Les oiseaux craignent l'imprévu. Leur vie est une fuite perpétuelle. Ils ne livreront jamais leurs secrets au premier coup d'œil. Il faut feindre l'immobilité, éviter les faux mouvements, le moindre craquement de branches, adopter des gestes rituels pour briser la méfiance, user de subterfuges, beaucoup persévérer et même persister. Il faut apprendre à partager leurs peurs. Le chasseur doit devenir sa propre proie. Alors, de nombreux secrets se révéleront à vous. Le funambulisme de la mésange bleue en quête de chenilles, la contorsion reptilienne du cou du torcol fourmilier lorsqu'il fait face à un danger, les références amoureuses des tourterelles turques, la danse aquatique des grèves huppées en guise de chorégraphie prénuptiale, les offrandes alimentaires des guépiers, le jaillissement ascensionnel de l'alouette des champs, les impostures sonores de l'étourneau imitant d'autres oiseaux et tant d'autres. Subtile alchimie entre la figure esthétique de l'oiseau et la sensibilité du guetteur, l'observation des oiseaux génère un sentiment admiratif, parfois un vertige contemplatif. Leur grâce vous cueille et vous dépasse. Elle transporte l'observateur dans une évasion qui m'évoque celle du pianiste devant un impromptu de Schubert ou celle d'un œnophile portant à ses lèvres un vers de Romane Conti. Surgissent alors des entrelacs de souvenirs, des chants d'imaginaire, des images lointaines. Les oiseaux sont les porteurs de fragments de nous-mêmes. Partir à leur quête, c'est retrouver des pans de notre vie.
Fait le temps.
bulle, à écouter en direct et en podcast sur radiokipik.org. À bientôt dans une autre bulle.